Mathilde Serrel, Martin Kénéen, Ping Pong.
Direction la banlieue de Dakar au Sénégal et plus précisément l'hôpital psychiatrique de Tiaroy où une autre approche de la folie se dessine depuis les années 60.
Et des esclaves dans la tête, dans la tête.
Avant tout, la santé.
Il a eu l'intelligence, il a eu la peine de pouvoir m'interviewer tout en sachant que je suis fou. C'est déjà un bon début.
Avant tout,
j'avais réussi à faire croire à tout le monde que c'était ma mère la malade et moi j'étais l'accompagnante.
La folie n'existe pas, mon enfant.
Joris Lachaise, vous avez tourné entre 2011 et 2014 à Tiaroy, donc à la lisière de Dakar au Sénégal. Et vous avez été guidé entre autres par l'écrivaine et cinéaste sénégalaise Kadi Sylla, qui est décédée en 2013 et qui est une des héroïnes du film. Mais là, ce qu'on entend, cette phrase en exergue, commençons par la fin, puisque c'est une exergue finale. Voilà, la folie n'existe pas. Elle est prononcée par un dramaturge, peintre et sculpteur, Issa Sambe, Joe Wakam. Pardon pour le Joe et à l'américaine. En quoi finalement cet exergue, c'est le point de départ du film? La folie n'existe pas.
Alors la formule, la sentence de Joe Wakam est à prendre justement avec toute la provocation qu'il y met et qui correspond à la figure de ce personnage-là. La folie n'existe pas dans la mesure où... ce qu'interroge le film, enfin ce que j'ai tenté de sonder à Tiaroy, ce sont les limites justement de l'institution psychiatrique occidentale telle qu'elle a été exportée en Afrique de l'Ouest et au Sénégal en particulier, où dans le rituel qu'on voit aussi dans le film du end-up, on voit que la question n'est pas celle de la guérison. Parce que la folie, justement, est quelque chose qui est...
Un mot sur ce rituel.
Oui. Alors, l'end-up...
Le malade... Enfin, on va essayer de sortir cette espèce d'esprit qui veut trop de bien au malade.
Non, on va pas le sortir. On va essayer de... Ce que je voulais dire, c'est que la folie est toujours une attaque extérieure. Un sort qui a été jeté par un sorcier ou un esprit, que ce soit un djinn ou ce qu'on appelle des rabs dans l'end-up, qui viennent prendre possession de la personne. Et ce qu'on va essayer de faire dans le rituel du end-up, c'est pas de chasser le mal, mais c'est de créer une alliance avec l'esprit. Et en ce sens-là, voilà, il s'agit pas de folie ni de maladie mentale, mais d'accomplir un voyage au bout duquel on va acquérir un savoir et une vision qu'ensuite on pourra retransmettre. Voilà.
Philippe Lespinasse, vous, dans votre film André et les Martiens, qui est un documentaire qui sort aujourd'hui, également en province, avant de sortir à Paris à la rentrée, on est aussi certes dans d'autres contrées, on n'est pas à Tiaroy, en banlieue de Dakar, on est du côté du Québec, on est du côté en particulier de la Suisse, avec les différents personnages de votre film, qui sont tous des artistes dits bruts, des artistes outsiders, et pourtant je me permets de me lancer dans votre direction, parce que il me semble que à la manière de ce que vient de dire Joris Lachaise, tous ces artistes ne sont pas en lutte avec la folie, mais il semble qu'ils travaillent avec ce que l'un d'eux, Paul Amar, le pape des coquillages, appelle la bête. Ils travaillent avec la bête et que c'est une façon de vivre main dans la main avec la folie.
Il y a des connivences incroyables entre le film de Joris et le mien. C'est un peu comme si on gravissait la même montagne sans savoir qu'on est sur la même montagne, par des versants différents, et qu'on se retrouve en haut avec manifestement des points communs. Lui, oui, voilà. Enfin, je vous ai d'ailleurs proposé de venir avec un des personnages, André et les Martiens, mais vous m'avez dit que au ping-pong, on jouait à un contre un, mais je vous ai rappelé qu'on pouvait jouer aussi en double au ping-pong, mais manifestement, ça marchait pas dans le cadre de votre émission.
Donc, vous auriez dû chacun venir aussi avec tous vos personnages.
On aurait pu venir
faire des équipes,
mais finalement, les auteurs d'art brut, ils font avec ce qu'ils ont sous la main. Ce sont des artistes de peu, des artistes modestes, ils font de nécessité vertu, ils font avec des bouts de bois, des cartons de pizza récupérés, et puis quand ils ont rien, en deçà de tout, il y a encore la langue, il y a encore le mouvement, et c'est là où finalement nos deux films se rejoignent, il y a quand même cette incroyable capacité à sculpter tout ce qu'ils ont sous la main, ainsi que la langue.
Et ils font alliance pour réagir, rester sur ce mot qu'a employé Joris Lachaise. Ils font alliance avec leur aliénation.
Ils font alliance avec des énergies surnaturelles, avec des utopies, avec des chimères. Rien n'est réel, tout est poétique. Les architectures que je filme, ce sont des architectures utopiques. Ce sont des ambassadeurs de la poésie qui vient les visiter. On est dans la transcendance.
En fait, ils jouent avec les objets d'usage comme on joue avec l'usage des mots et justement sur l'impossibilité, j'ai l'impression que... Enfin, en tout cas, avec...
Joris Lachaise.
Oui.
Rentrez dans le ping-pong, allez-y.
Ah oui, c'est un match. C'est
une chorégraphie, c'est une danse, c'est pas un match.
Tout à fait, ouais. Mais justement, c'est ce qui se passe dans la relation en tout cas que j'essaie d'établir avec... que ce soit avec les patients de l'hôpital de Tiaroy, aussi bien qu'avec Joachim, qui lui est un magnifique danseur. C'est-à-dire qu'on crée vraiment une chorégraphie, une danse improvisée, comme une danse contact, où on est là au corps à corps, et il s'agit de jouer dans le rapport de force, de savoir qui va mener la danse. J'imagine que toi aussi, dans ta rencontre avec tes personnages... Entre
le filmeur et le filmé. Donc.
Oui, c'est toujours une sorte de pas de deux, une espèce de chorégraphie. Moi, je me demande toujours à quel endroit il faut être. Enfin, comme on dit en tauromachie, c'est la recherche du site, le bon endroit. Trop près, on se fait encorner. Et c'est obscène en matière cinématographique. Et trop loin, il n'y a pas de duende, ça danse pas. Et c'est évasif en matière cinématographique. Donc, il y a toujours cette recherche du point de vue, de la bonne distance qui va permettre au personnage de ne pas se sentir... observer de trop près et en même temps de se libérer de quelque chose qu'il porte depuis longtemps. Je pense qu'on est dans la même recherche avec nos personnages un peu fragiles et tout ça est extrêmement délicat. Moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est ce qu'a proposé le neurologue Oliver Sacks dans l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Il disait que finalement la maladie, les empêchements, les difficultés sans doute étaient contraignantes, mais par ailleurs libérer quelque chose, débonder quelque chose, en tout cas permettait quelque chose. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect artistique, finalement, qui guérisse ou qui guérisse pas mes personnages. C'est pas mon propos. Moi, je suis ni psychiatre ni sociologue, et j'ai l'impression que toi, tu t'évertues à filmer quelque chose comme ça, de l'ordre de la parole singulière. Enfin, ce personnage qui refait le monde, cette cosmogonie incroyable. En plus, il te prend à partie, et dans sa folie, il est extrêmement conscient du dispositif que t'installes. Je suis filmé par un blanc qui vient me demander ce que j'en pense. On commence bien. C'est formidable. Mais Robillard, il fait pareil, quoi. Quand il raconte son voyage sur Mars, André Robillard, mon
l'artiste qui est dans le titre de votre film.
Il fait pareil. C'est-à-dire qu'il nous transporte ailleurs.
Et justement, je pense que comme les auditeurs n'ont pas forcément vu chacun de vos films, ça serait intéressant peut-être de positionner un petit peu les personnages, les forces en présence dans cette équipe, notamment Joris Lachaise. Est-ce qu'on peut se repositionner comme ça, en quelques mots, dans cette clinique qu'on pourrait appeler la clinique Laborde de Dakar, parce qu'elle expérimente au moment d'ailleurs où la clinique Laborde le fait en France de nouvelles méthodes psychiatriques. Vous allez donc être guidé par Kadisila, qui elle a été une ancienne patiente là-bas. On encourage sa littérature, on entourage son cinéma. Voilà, quels sont les personnages qui composent le film et comment, à travers eux quand même, puisque vous avez une formation philosophe et puis aussi un point de vue ethnologique, comment à travers eux vous avez pu approcher cette nouvelle forme de psychiatrie, cette piste possible entre deux cultures ?
Alors, c'est vrai que dans le film, il y a quelques personnages qui sont des grandes figures d'intellectuels, d'artistes comme Joachim, Tierno Saïdoussal, qu'on appelle aussi le poète errant, et Radicilla, qui était une écrivain, cinéaste, qui a fait d'ailleurs en 2006 un magnifique et aussi très singulier film qui s'appelle Une fenêtre ouverte. Elle fait un autoportrait poétique sur... où elle interroge les miroirs diffractés de sa psyché, parce qu'elle a été effectivement internée à l'hôpital de Tiaroy. Et moi, quand je la rencontre, je sais qui elle est, mais je ne savais pas qu'elle avait été internée à Tiaroy. Et donc, quand elle a décidé de venir m'accompagner à l'hôpital, là, je l'ai vue déambuler dans ces lieux, être familière des gens qui sont là depuis des dizaines d'années, et il y avait toujours son médecin traitant. Donc on voit dans le film aussi des joutes aussi entre elle et son médecin traitant.
Elle entre et elle sort, c'est ça?
Alors maintenant, oui, elle est une consultante externe. Et après, pour revenir à la question des autres personnages et de la distance que j'ai essayé d'instaurer, c'est...
Et en même temps du propos que vous faites passer.
Mais c'est-à-dire qu'il s'agit pas, il s'agit moins d'un sujet, en fait, d'un sujet que je vais décider d'investiguer, mais d'explorer aussi une distance avec le réel, justement, et qui consiste, comme tu me disais tout à l'heure, Philippe, à transgresser aussi parfois des règles dans la distance qu'on doit établir normalement dans le documentaire avec son sujet ou le réel. C'est-à-dire que à un moment, il y a une séquence qui est pour moi vraiment paradigmatique dans le film, c'est que un jeune homme dans le couloir m'invective en me disant voilà, je suis un fou. Et en fait, il me parle pas directement à moi. C'est-à-dire qu'il interpelle une audience virtuelle qui est derrière la caméra, et il parle du caméraman blanc qui est derrière la caméra et qui l'interviewe alors qu'il sait qu'il est fou. Donc en l'occurrence, le caméraman blanc, c'est moi. Et en fait, là, je vais le suivre parce qu'il a une logorée, un débit de parole complètement captivant, et je me rends compte à un moment que je suis captif, en fait, de son discours, et je décide de cesser de le suivre et de me fixer sur le mur du fond du couloir. Et en fait, là, je ne suis plus un satellite qui lui tourne autour, mais il revient prendre possession du cadre. Et là, je crois qu'il se passe quelque chose où on comprend à la fois la relation qui est entre nous, et en même temps, il y a un glissement du centre de gravité, c'est-à-dire qu'il y a une inversion de la polarité entre nous. Et je crois que c'est là où se joue tout le truc, c'est-à-dire que lui prend en charge dans son discours la question de la tension noir-blanc entre le caméraman blanc et lui qui parle au nom en tant qu'ancien représentant des anciens colonisés. Et par ailleurs, moi, j'essaie de rendre la caméra, de la neutraliser comme caméra prédatrice du blanc pour la transformer en un outil dialectique, justement, où se joue, voilà, comme ça, cette espèce d'interactivité. Voilà.
Oui, pardon, mais ce qui était très fort dans cette scène, parce que je ne sais pas si on y reviendra plus tard aussi, c'est que... Il y a un propos qui se dégage. Je parlais de vertige lucidaire tout à l'heure. C'est que peut-être que c'était la meilleure manière, justement, non externalisée et non, on va dire, comme ça, paternaliste, de faire passer ce qu'il pouvait y avoir de fondamentalement lucide, de fondamentalement vrai sur le monde qui est dit à cet instant-là. Mmh. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on n'a pas un objet de délire, qu'on a un discours sur lequel vraiment il y a des choses à prendre, il y a des choses essentielles qui sont dites, et en même temps, ce n'est pas grâce à vous que ça devient un discours écoutable.
Non, c'est pas moi qui rend. J'espère bien que c'est pas moi, que ça dépend pas de moi de rendre audible un discours, mais... ce que j'essaie de mettre à l'épreuve, c'est... la distance avec laquelle on doit pouvoir entendre la parole et la vérité ou le savoir qui est contenu dans la logorée, enfin dans le délire, dans la parole du fou, justement, et dans son geste et dans son la mise en place de... Alors l'hôpital de Thierry, j'ai pas rebondi sur ce que vous disiez tout à l'heure, mais effectivement, il est l'héritier de l'hôpital de l'école de Dakar, qui avait été initié par un neuropsychiatre à la fin des années 50, qui s'appelait Henri Collomb, et qui tout de suite s'est rendu compte que la méthode, l'approche de la maladie mentale occidentale n'était pas adaptée, en fait, à la culture de ses patients, à leur horizon, enfin, à leur imaginaire, leur univers symbolique, etc. Et donc, il va se mettre à l'écoute de ce qu'on appelle les tradithérapeutes, c'est-à-dire les guérisseurs, et aussi bien que les marabouts. Et en fait, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir que, comme je le disais tout à l'heure, c'est au même moment se prépare l'indépendance du pays, et aussi a lieu en France tout un courant de pensée qui vise justement à mettre en question...
L'antipsychiatrie, qui aurait dû s'appeler la psychiatrie d'ailleurs.
La psychothérapie transculturelle, la sociothérapie... Que Fanon a essayé justement lui aussi de s'entourer.
Franz Fanon, le psychiatre, qui est aussi un des pères virtuels de ce film, avec Jean Rouch, mais on y reviendra.
Philippe Lespinasse, il a peur aussi à écouter Joris Lachaise que dans votre film, André et les Martiens, vous travaillez aussi cette distance entre le regardeur et le regardé, entre le fou ou dit tel et la personne lambda, normale. Vous, vous entrez dans le champ, vous faites une participation à ce qui se passe et même vous interrogez la position de l'artiste puisque dans une des premières séquences du film, on vous retrouve avec André Robillard lui prenant quasiment des mains ses outils, sa scie avec laquelle il fabrique des fusils de bois. Vous vous mettez aussi à essayer de vous mêler de la fabrication de ces outils. C'est aussi une façon de déconstruire la position de l'artiste qu'on prête à ces artistes outsiders.
Je suis pas dans cette fameuse neutralité objective. Je suis pas dans cette école où on se réfugie derrière sa caméra en supposant que les choses se dérouleraient de la même manière si on n'était pas là. J'y crois pas une seconde. Par ailleurs, avec André et là, Robillard, il y avait quasiment non-assistance à personne en danger puisqu'il manquait se couper la main.
Rappelons qu'il fait ça depuis 64, par terre.
Ouais, c'est vrai qu'il touche sa bille en bricolage, mais bon, ça me semblait juste finalement d'entrer dans le cadre et du proposer là de manière visible cette espèce de pas de deux sans me réfugier moi derrière la caméra ou dans un off qui n'existe pas sans prendre de risques. En tout cas, ça me paraissait propice à faire avancer l'histoire de cet homme qui a été interné à l'âge de 9 ans par son père parce qu'il cassait des chaises. Aujourd'hui, on dirait que c'était un enfant un peu agité, ça se réglerait en deux coups de psy et puis ça irait très bien. Et cet homme, il a passé 75 ans en milieu ouvert certes, mais dans un hôpital psychiatrique à Fleury-les-Aubrais où il n'a cessé de créer ces fusils inoffensifs, dit-il, qui ne tuent que la misère. Et dans le film, il y a un moment où je demande, mais finalement, ça sert à quoi de faire des fusils inoffensifs? Mais il dit justement, si le responsable des armées du monde entier avait eu la bonne idée d'utiliser des fusils inoffensifs, il y aurait moins de morts.
Eh oui, c'est précisément logique.
Mais c'est magnifique.
Je vous propose de l'entendre à ce sujet, André Robillard.
Oh, un sang pour leur Syrie. Attention, ce gangster Far West. Oh là, il y en a des lourds là-dedans. Puisque les mitrailleurs.
Qu'est-ce qui est marqué là?
Rapide. Ici là.
Ouais, c'est un patin à glace.
Ah oui, ah dis donc. Ils sont bien les coches là, dis donc. C'est un fusil comment ça? Ah dis donc. Ah, c'est un fusil martien.
T'en as fait combien de fusils en tout depuis le début, tu penses?
Oh là, j'en ai fait plus de 100, hein. Ah oui, plus de 100, certainement.
Depuis que t'as commencé?
Depuis que j'ai commencé en mars 64, oui.
En fait, parce que toi, t'as eu la bonne idée de fabriquer des fusils qui tirent pas.
Et oui, c'est ça qui est bien.
Alors que jusqu'à présent, fabriquer des fusils qui...
Et ça, c'était la seule idée qu'il y avait, c'était moi qui l'avais. Hein. Avec ça, il n'y a aucun danger. Hein. Même pour l'armée, il n'y a aucun danger là-dessus. C'est inoffensif. Hein. Ça tue pas, ça.
André Robillard, dans André et les Martiens, votre film, Philippe Lespinasse, qui fabrique donc ces fusils inoffensifs, d'ailleurs, il comprend pas pourquoi Bachar el-Assad n'y a pas pensé, à fabriquer des fusils qui ne tuent pas. Et il y a un moment, il a cette phrase dans cet échange, il dit que c'est des fusils qui ne sont pas mortels. Il m'a semblé que peut-être, à travers ses œuvres, mais aussi à travers les œuvres que chacun des artistes que vous rencontrez, que ce soit Paul Amar qui fabrique donc des scènes et notamment des masques en coquillage, à travers les cocons tissés par Judith Scott, à travers les maisons de guingois, les maisons croches élaborées par le Québécois Richard Griffes, chacun exerce un face-à-face, un pas de deux, comme vous le dites, aussi avec la question du temps, avec la question de la mort.
Mais puis chacun invente... invente un monde. Chacun se soucie peu de l'histoire de l'art qui l'a précédé et a décidé de revisiter, de réinventer l'architecture, la danse, la sculpture, la peinture à sa manière et avec les outils et les objets dont il disposait.
Oui, Paul Amar d'ailleurs, il dit je suis pas un artiste, je suis un bon ouvrier et je travaille avec la laideur.
Je suis un bon ouvrier et au moins dans un premier temps, la plupart des auteurs d'art brut de toute façon ne se définissent pas comme des artistes, ils ne se voient pas comme artistes et leurs œuvres ne sont pas destinées à être vendus, encore moins spéculés et collectionnés. De toute façon, ils ont avec leurs œuvres le rapport qu'on peut avoir avec nos enfants ou nos rêves. C'est pas à vendre. C'est vital, c'est une question de vie ou de mort, mais c'est pas à vendre. Et dans un deuxième temps, parfois, sous l'influence plus ou moins bienveillante des collectionneurs, des galeristes et des musées, ils s'avisent de vendre. Mais et là, ça peut atteindre des sommets inatteignables. C'est-à-dire qu'ils peuvent aussi vouloir vendre des dessins des millions de milliards de dollars. Ou un poulet rôti. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'art spéculatif. On est il y a quelque chose quand même dans ces créations qui résiste au marché, qui résiste à la spéculation, qui résiste au capitalisme. Finalement, la question que je ne cesse de me poser, moi, c'est qu'est-ce qui résiste, qu'est-ce qui reste quand on s'intéresse à ces œuvres et qu'on les extrait du milieu d'où elles n'auraient jamais dû partir finalement, puisque c'est pas fait pour ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui résiste au voyage ou pas? Alors moi, je crois quand même qu'il y a quelque chose qui résiste et que ça se mélange pas bien avec le reste. Je pense quand même que le palais du facteur cheval restera le palais du facteur cheval au-delà de tout ce qu'on peut dire et penser sur le palais du facteur cheval, de la même manière que d'autres environnements en Inde ou aux États-Unis ou ailleurs, et ainsi que les architectures de Richard Grieve au Canada, qui retourne à la nature, à la neige, au vent et à la pluie, parce que lui-même est parti ailleurs et se soucie peu de ce que vont devenir ses œuvres. Donc là, on est dans des œuvres qui voyagent par elles-mêmes. On est dans des gestes poétiques insensés. Et moi, ce qui m'intéresse chez ces auteurs doués d'irraison, c'est cette capacité à enchanter le monde, c'est à dire aux autres hommes qu'on est encore capable de faire des choses. Avec nos propres moyens, nos deux mains, un peu d'énergie.
Qui nous propose une autre direction, un peu comme Judith Scott que vous filmez faire du vélo d'appartement à l'envers.
Par exemple, c'est incroyable.
C'est une bonne façon de voir la vie.
Faire du vélo d'appartement à l'envers. Voilà. Et pourquoi pas?
Je voyais, vous aviez envie de réagir.
Non, ça me faisait penser à ce que tu disais, à la folie et l'absence d'œuvre. C'est un titre de Foucault, mais avec cette idée que il y a pas d'intention en fait de faire œuvre. Quand bien même le génie ou le hasard conduirait ce qu'on appelle la folie à construire, à décrire ou à exprimer le processus, la naissance d'une œuvre. En fait, ce qu'elle désigne, c'est plutôt le lieu vide d'où elle est conçue, en fait. La forme vide, c'est-à-dire l'endroit où elle ne sera jamais. Pour moi, c'est ce que ton personnage, en fait, évidemment, me fait penser un peu à Joachim dans le film, qui, pour moi, en tout cas, dans le film, j'ai décidé de le mettre dans une position, dans un rôle de contrepoint vis-à-vis de ce qu'on peut voir dans l'hôpital. C'est-à-dire un contrepoint aussi formel.
À Dakar, donc dans l'hôpital Tiaroy, l'hôpital psychiatrique.
Oui, on est à Dakar.
Ce qui reste de la folie de Jory Chassaigne.
Ce qui reste de la folie.
Mais là, on est dans ce qu'a écrit Artaud quand il dit qu'un aliéné, c'est un homme qu'on enferme pour l'empêcher de proférer des vérités insupportables. Et dans, je crois que c'est le suicide de la société qu'il écrit ça. Et là, on est dans cette problématique. Il me semble que ton intérêt pour ces êtres comme le mien, c'est pas le versant psychologisant. Il s'agit pas de tomber dans ce catéchisme sociologisant ou psychologisant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la capacité à créer, à enchanter une situation, voir le monde. Enfin, on essaie de traiter ça, pas sous l'angle du stigmate, mais sous un autre angle plus poétique, peut-être, non?
Mais tout à fait. Joris Lachaise, d'ailleurs, vous avez décidé de traiter les choses sous un angle plus poétique, c'est-à-dire sans être pris de folie quand vous passez au documentaire. Vous qui avez donc étudié d'abord la philosophie, qui faites donc toute une thèse sur l'anthropologie de la mort, qui avait une approche comme ça au départ universitaire des choses, qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de passer par le médium poétique pour explorer mieux, pour dire mieux?
Alors, vous exagérez là sur ma
Je vous donne, oui. Trop de crédit universitaire.
Oui, tout à fait. Oui. Alors là, pas du tout. J'ai fait de la philo plutôt pour faire du cinéma. En fait, je voulais apprendre à construire une pensée pour pouvoir construire un regard. Et j'ai toujours voulu prendre une caméra et la caméra est effectivement un moyen de
Pourquoi c'était le meilleur moyen finalement, c'est ça ma question, que ça vienne avant ou après?
Bah c'est un moyen justement de me lancer dans le monde. Pour moi c'est à la fonction d'un bâton de relais que l'autre peut prendre à l'autre extrémité et puis c'est un prétexte pour échanger, discuter et puis jouer aussi sur nos modes de mise en représentation. C'est-à-dire on est des êtres sociaux, on a des masques sociaux et en l'occurrence, là, Joe Hackam, pour revenir à lui, c'est vraiment
quelqu'un
qui se construit comme un personnage. Vous l'avez dit tout à l'heure, il s'appelle Issa Samba. Joe Hackam, c'est un nom de scène, quoi. C'est le nom d'un quartier de Dakar, qui est un quartier de l'Ebou, parce qu'il est l'Ebou, et qui est donc cette ethnie qui pratique le Ndep. Et quand je disais tout à l'heure qu'il joue le rôle de contrepoint, c'est aussi qu'il est, lui, c'est la folie qui n'est pas enfermée, en fait. C'est la folie qui a trouvé totalement sa place dans la société. Et c'est un espèce d'extravagant qui a une fonction un peu chamanique dans la société sénégalaise. On considère avec beaucoup de déférence. Mais
c'est pas inoffensif en même temps, parce que vous nous parlez un peu de votre travail. On a l'impression que c'est aussi inoffensif, si je puis dire, que les fusils d'André Robillard. De prendre une caméra, c'est peut-être plus dangereux, plus risqué pour vous que, comme le rappelait Mathilde, de faire des études de philosophie.
Ben oui, c'est aussi cette prise de risque-là, qui est la prise de risque de aborder quelqu'un dans la rue qu'on ne connaît pas, c'est déjà une prise de risque.
Petite quand même, hein, la plupart du temps.
Oui.
Philippe Lespinasse.
Et on voit vos images, en tout cas, c'est des images qui ont quelque chose de dangereux.
Sauf quand on est introverti.
Et vos images, elles ont même elles-mêmes quelque chose de dangereux, de rugueux, d'acéré.
Dangereux, sans
elles nous disent que la folie n'existe pas, vous rendez compte?
Mais c'est vrai que la proximité avec laquelle je filme les gens, qui parfois peut déranger, je crois, mais elle est liée au fait que je me mets à une distance où je peux effectivement me faire frapper, me faire attraper, me faire refouler, mais aussi c'est une distance à laquelle je crois on peut s'embrasser, on peut se sentir, se regarder, échanger un sourire. Et
sentir l'autre.
Oui.
Bien sûr, être dans une zone d'inconfort.
Et oui, je le disais très maladroitement, mais j'essayais de transgresser, outrepasser la distance critique, en fait, qui est la distance, en éthologie, ouais. C'est la distance à laquelle on ne peut pas s'approcher plus.
La distance de la politesse, quoi, distance des bonnes mœurs, sans doute.
Tout à fait. Et je crois que ça, il y a des choses qui passent un peu par une brutalité qui est une manière de rentrer aussi dans une forme de, comment dire, de sympathie, de proximité. 1, 2, 3.
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission qui, elle aussi, aime transgresser et être à bonne distance pour être tour à tour frappante et caressante.
De la caméra comme une muleta dans la grande tauromachie documentaire. On en parlera avec nos deux invités, Philippe Lespinasse et Joris Lachaise.
Mais tout de suite, on va faire un tour d'arène dans l'arène de l'actualité culturelle avec Zoé Sfez et son journal de la culture. Zoé, bonsoir.
Bonsoir Zoé.
Actualité socio-culturelle ce soir. Puisque,
presque.
Alors que le marché international du film d'animation bat son plein à Annecy, on s'en est fait l'écho ici dans Ping Pong, vous consacrez ce soir votre dossier à cette fronde dans le milieu de l'animation, non pas des images, mais des personnes qui agitent les jeunes professionnels et les étudiants. La convention du secteur de l'animation est en train d'être renégociée. Elle prévoit entre autres la création de différents échelons, notamment d'un échelon junior, jugé scandaleux, voire dangereux, car les jeunes à qui elle doit s'appliquer, eh bien, sont très nombreux.
Oui, ils sont nombreux. Je vous en avais parlé lors de l'ouverture donc, du festival d'Annecy. Le secteur de l'animation est très prometteur. La France entend bien en faire l'un de ses fleurons. D'autant plus que c'est l'argument du CNC, souvent d'ailleurs, quand il indique qu'il va lui donner de l'argent. C'est de loin l'un des secteurs des industries créatives, comme on dit poétiquement ou politiquement, engage le plus de jeunes, puisque l'âge moyen des salariés en CDI dans ce secteur, c'est 38 ans, celui des salariés en CDD, c'est 32, celui en CDDU, c'est 31, donc essentiellement des gens très jeunes. La convention collective de ce secteur est en pleine renégociation, puisque la dernière datait de 2004. Elle était carrément obsolète au vu des changements qui surviennent dans le métier, notamment des changements technologique. Et donc le principal syndicat de la profession, le SPFA, propose pour être plus compétitif face aux pays étrangers qui viennent voler nos talents, mais aussi pour mettre de l'ordre dans une profession en pleine mutation, la création de 5 échelons pour les postes d'animateurs. Donc quand vous êtes animateur, vous serez maintenant junior, puis senior, puis chef, puis directeur, avec à chaque fois un salaire fixe, comptabilisé en fonction de votre expérience, quelles que soient finalement vos compétences et les postes que vous avez occupés, qui sont parfois très spécifiques, ces compétences. Parfois, on est plus jeune et plus performant que des anciens animateurs parce qu'on maîtrise de nouvelles technologies. Il faudra maintenant passer 20 mois au sein du secteur de l'animation en tant que junior pour devenir senior. Le salaire correspondra à celui aujourd'hui, peu ou prou, d'un assistant. Donc cette annonce a provoqué un tollé chez à la fois les jeunes animateurs et surtout les étudiants. Ils ont créé un collectif, Velma de Troyes, et ont manifesté lors du passage de François Hollande au festival d'Annecy. Une jeune animatrice a accepté de me dire ce qui, pour elle, représentait les effets les plus pervers de cette histoire d'échelon junior, mais anonymement, parce qu'elle a peur, comme quasiment tous ses collègues, d'être blacklistée par les grands studios.
Dans notre métier, un assistant, c'est un vrai métier, c'est un métier différent de celui d'animateur. Être animateur junior, ce n'est pas être un assistant. Du coup, en donnant ce salaire d'assistant aux nouveaux juniors qui seraient créés, ça constituait en fait une baisse des minima actuellement en vigueur dans notre convention collective. Sachant que les écoles, les formations en animation coûtent de plus en plus cher, beaucoup d'élèves sont obligés de prendre des prêts. Envisager une baisse des minima salariaux actuellement, c'est compliqué pour eux et ça risque d'engranger en fait une espèce de sélection, ne serait-ce qu'à l'entrée dans les écoles, car certaines personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils se disent qu'ils ne pourront pas assumer le coût de leurs études en sortant. Sortir du statut junior, donc devenir senior, c'est extrêmement compliqué. Il faut réussir à les faire ces 20 mois d'affilée. Et le problème, c'est que si on institue un statut junior qui est en dessous des minima des animateurs actuels, ça va complètement encourager le turnover et l'institutionaliser même carrément. Les gens qui seront seniors et qui deviendront moins compétitifs pourront plus retrouver eux-mêmes du travail à cause du fait que les studios, en fait, sans quota, sans rien du tout, ils pourront embaucher des juniors constamment.
Cette proposition d'instaurer des échelons, Zoé, émane du principal syndicat de la profession qui invoque au contraire une volonté de créer plus de transparence.
Oui, alors ce syndicat, c'est le SPFA, la Société des producteurs de films d'animation. Il représente évidemment, on l'aura compris, surtout les cadres et les patrons de studios d'animation. Alors impossible d'avoir une interview officielle avec eux parce qu'ils estiment que les négociations étant en cours, ils ne peuvent pas prendre la parole publiquement. Mais en tout cas, j'ai pu parler avec de nombreux techniciens au téléphone. On a dit que là-bas, bon, qu'on comprend la problématique des jeunes, qu'effectivement les écoles sont très chères, mais que ça finalement, c'est pas tout à fait de leur faute. C'est qu'effectivement, c'est une réalité, que de toute façon, il y a nécessité à mettre de l'ordre dans ce milieu où les fraudes sont déjà aujourd'hui extrêmement nombreuses. Les grands studios n'hésitent pas à embaucher de jeunes animateurs déjà au statut simple d'assistant. La création d'échelons serait donc vertueuse. Ils indiquent aussi que les négociations ont permis d'assouplir les conditions de sortie de ce fameux échelon. Et maintenant, il suffit de faire 20 mois, mais on peut les cumuler, quel que soit son poste. Et puis, surtout, on indique du côté des patrons que l'animation, ça reste cher, ça reste très difficile à financer, que si on veut créer de l'emploi, eh bien, il faut faire des efforts. Et pour la jeune animatrice, membre du collectif Velma de Troyes avec qui j'ai pu m'entretenir, ce changement de convention, loin de régler le problème extrêmement courant de la fraude, risque tout simplement de l'institutionnaliser.
Lorsqu'un senior devient trop cher, ça arrive souvent que les studios qui ont peu de budget préfèrent embaucher un petit jeune à moins de coût pour rentrer dans leur budget. Mais le fait de mettre ce statut junior, ça risque d'institutionnaliser en fait ce conflit entre junior et senior, avec des salaires qui seront même plus en fait librement négociables, quoi, puisque les juniors coûteront tant, les seniors coûteront tant, et ils pourront plus du coup de temps en temps accepter de payer moins cher parce que le projet leur tient à cœur et qu'ils veulent quand même le faire. Et en plus, les studios qui veulent continuer à utiliser la fraude d'assistants continueront à le faire. Et ce n'est pas en plus en légalisant une fraude qu'on règle cette fraude, quoi. C'est juste la légaliser. On préférerait voir une meilleure transparence et une meilleure communication avec nos producteurs, parce qu'en fait, en vrai, on travaille tous ensemble pour faire des films d'animation et on voudrait juste que ça ne se passe pas systématiquement sur le dos des animateurs. Il y a toujours moyen de trouver d'autres techniques de production qui permettent de rendre un film moins cher, et d'aller demander d'autres aides, des nouveaux moyens de financer des projets qui nous paraissent intéressants.
Alors, les négociations devraient reprendre dans les semaines qui viennent, et l'enjeu est de taille quand même, parce que grâce au nouveau crédit d'impôt accordé gentiment par le gouvernement, le secteur d'animation devrait se développer. Près de 6 studios ouvriront l'année prochaine en France.
au bref, Zoé, et d'autres nouvelles d'une autre industrie du rêve.
Oui, le sondage de la Fédération des industries artistiques britanniques qui, à la veille du Brexit, indique que 96% de ses adhérents, donc la quasi-totalité des professionnels de la culture britannique, voteront pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne lors du référendum prévu demain. Dans un communiqué de plusieurs artistes, dont évidemment Keira Knightley, Benedict Cumberbatch, si je ne sais jamais s'il le dit bien, eh bien, il termine dans ce communiqué publié sur le Guardian par « Quitter l'Europe serait un saut dans l'inconnu pour des millions de personnes qui, à travers le Royaume-Uni, travaillent dans les domaines artistiques et pour les millions d'autres qui, ici ou à l'étranger, bénéficient de la croissance et du dynamisme du secteur culturel britannique. »
Le plus grand quotidien indépendant de Zambie a été fermé par les autorités faute d'avoir payé des impôts et, évidemment, à 2 mois de la présidentielle.
Oui, la police et le service des impôts ont physiquement fermé les bureaux du Poste mardi soir, a indiqué son rédacteur en chef. Rédacteur en chef qui dénonce une volonté pure et simple de censure du gouvernement, même s'il reconnaît que son journal, le seul réellement indépendant dans le pays, était en effet endetté de près de 4 millions de dollars, mais qu'il avait commencé à rembourser ses dettes et qu'une décision de justice avait conclu à l'échelonnement de sa dette. Il faut savoir que la Zambie est en proie à de très violentes violences politiques, et ce, à l'approche du scrutin.
Autogestion dans les médias, le mensuel Terra Eco en liquidation après 11 ans d'existence va être repris par ses salariés et devenir un média principalement en ligne.
Le tribunal de Nantes a autorisé l'association Les Amis de Terra Eco à reprendre l'intégralité des actifs du journal. Notre offre a été retenue parce qu'elle était portée par les journalistes du magazine et qu'elle assurait la reprise de 6 à 8 salariés. Le mensuel qui était tiré à 20 000 exemplaires va devenir un média principalement en ligne payant avec une version papier. L'idée est de repartir en janvier 2017. On va faire l'inventaire de ce qu'on a bien fait et de ce qu'on a mal fait pour tenter de survivre.
Merci Zoé. À présent, foin d'économie, on retourne à la folie avec nos invités Joris Lachaise et Philippe Lespinasse qui regardent la folie dans les yeux, avec les yeux du cinéma et même du cinéma vérité dont a pu nous parler Edgar Morin.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
Sur le mot cinéma vérité, bon, je crois qu'il y a eu beaucoup d'ambiguïté. Et bien entendu, c'était la recherche de la vérité. C'était pas « voici la vérité ». Car j'étais pas de ces naïfs qui croient que parce qu'on montre une image avec des gens qui ne sont pas des acteurs en train de jouer un rôle, c'est la vérité. Puisque je savais très bien, et toute ma formation est là pour montrer que les gens vivent un rôle et jouent les comédies dans la vie sans avoir besoin de caméra. Mais à mon avis, justement, le mot de Ruspoli cinéma direct est très vrai pour toute une série de films. Enfin, depuis Primary jusqu'au film qu'a fait Ruspoli dans les asiles de fous, etc. Mais il y a une partie qui est cette partie du tête-à-tête, de la recherche d'un moment de vérité, presque comme on le dit dans la corrida, avec tout ce que ça peut avoir de dur et parfois d'une cruauté involontaire. C'était ça, ce côté qui ne se trouve pas du tout dans le terme de cinéma direct. Le cinéma direct, c'était prise directe, les gens font ce qu'ils font d'habitude. Alors que ce qui m'avait importé de plus en plus dans ce film, c'était que la caméra et le micro sont là comme des provocateurs et des incitateurs pour que quelque chose se passe qui ne se passerait pas sinon.
Edgar Morin, nous sommes en 1991 sur France Culture, bien sûr. Il s'agit d'une théorisation du cinéma vérité par rapport au cinéma direct. Ce sont des mots qui ont été créés pour sortir du label documentaire, hein, et ça s'initie à partir des années 50 avec Jean Rouch, avec qui vous avez travaillé, Joris Lachaise. Comment justement vous définissez par rapport à ces termes-là et ces mots que Philippe Lespinasse, qui est aussi avec nous pour un autre documentaire, a dit lui-même dans la première partie de l'émission, c'est-à-dire cette corrida documentaire et cette idée de provoquer les choses par la caméra.
Alors tout d'abord, je dois rectifier aussi.
Ah.
Vous avez été soigné avec des plantes par Jean Rouch, oui. Je n'ai pas travaillé avec lui.
Voilà, je n'ai pas travaillé avec Jean Rouch.
Il vous a marabouté, tout simplement.
Il vous a transmis les choses que vous avez été malade, c'est ça, il vous a soigné avec des
oui,
plantes.
Oui, voilà, et donc ça a été l'occasion de rencontrer quelqu'un qui était pour moi un maître fou, d'ailleurs. Non, pas maître fou, il n'était pas fou du tout, mais...
Mais c'est un jeu de mots sur un film de Jean Rouch de 1955,
oui, tout à fait.
Les maîtres fous.
Et pour ce qui est de la question du cinéma vérité... que dire, tu veux m'aider, Philippe?
Je sais pas. Vous nous mettez dans une auguste perspective.
C'est le calendrier, c'est au baccalauréat, donc.
Non, mais vis-à-vis de cette question-là, Pour ce qui est de mon travail, moi je suis pas très dans cette logique du repérage notamment par exemple. Et j'ai l'impression que il faut pas louper le moment précis où on filme ces gens. Je ne viens pas à eux en leur faisant semblant que je viendrai pour d'autres raisons que celles de filmer. Et s'ils m'acceptaient pas avec la caméra, je ne viendrai pas. Mmh. J'ai aussi l'impression quand même que par la distance qu'on choisit, on permet qu'une parole longtemps contenue et peut-être longtemps inouïe, littéralement jamais entendue, inaudible, va enfin trouver un réceptacle bienveillant pour se déployer. Et ce moment n'est peut-être pas reproductible à nous de savoir saisir cet instant dans une sorte de va-et-vient maïotique, pour dire les choses un peu avec cuistrerie. Et moi, je remets un peu en question cette fameuse période du repérage qui, de mon point de vue, tend surtout à obliger l'interlocuteur à ne plus reculer, quoi, à ne plus revenir en arrière. Cette période de séduction et d'euphémisme, de litote, qui consiste finalement à emprisonner le personnage et le convaincre de la pertinence de notre projet. Voilà. Moi, je repère pas beaucoup dans mon travail et je déploie sans doute d'autres savoir-faire et d'autres vices au moment du tournage, mais je suis pas tellement adepte de cette fameuse période de repérage parce que je pense que les gens sont grands et on est capable d'avoir un rapport adulte avec ces personnes même si elles sont en situation de relégation. Enfin, qu'en penses-tu? Est-ce que ça a nécessité beaucoup de repérage?
J'avais fait plusieurs voyages à Dakar.
Oui, voilà.
La question n'est pas celle du repérage. Je n'ai pas fait de repérage. D'ailleurs, l'essentiel. Du matériau qui constitue l'essentiel des images qui sont dans le film.
Donc, ce sont qui reste de la folie.
Dans ce qu'il reste de la folie, qui est sorti aujourd'hui au cinéma. L'essentiel des images qui constituent vraiment le cœur du film, les plus fortes, en fait, celles où il se passe vraiment des choses les plus importantes dans le film, sont des images de repérage, en fait. C'est-à-dire que,
c'est ce qui reste du tournage, en fait.
C'est ça. C'est-à-dire que je suis parti, avec une idée, c'est-à-dire que moi j'avais une intuition au départ, voilà, je dis François Fanon, je me dis quel est le rapport entre l'engagement de cet homme, entre son militantisme anticolonial et sa pratique de psychiatre, la rencontre entre deux formes d'alignation, la mentale et la coloniale, et puis bon, je pars vraiment sur quelque chose qui est comme ça très ténu, une idée, et je commence à faire des investigations qui me permettent de découvrir cette histoire de l'école de Dakar, et là je me retrouve à Dakar.
L'école de Dakar, donc c'est ce centre, hein, donc où on a traité différemment les patients sous la direction d'un psychiatre au nom mal choisi d'Henri Colomb, parce que justement il était en rupture avec les méthodes colonialistes.
Colomb comme Christophe Colomb d'ailleurs, ça s'écrit, ça s'orthographie comme Christophe Colomb. Et donc comme il faut à chaque fois préciser, c'est vrai, je perds le fil de ce que je voulais raconter. Mais
dans cet hôpital de Dakar, on était là, vous alliez chercher cette idée vague.
Oui, au moment où je me retrouve effectivement sur le lieu de mon tournage avec ma caméra au point, tout disparaît en fait, tout mon conditionnement théorique, etc., est complètement oublié. Je suis dans un rapport purement instinctuel, un rapport avec les gens. Et c'est vrai que je te suis tout à fait sur cette question, Philippe. Il est important pour moi qu'on m'identifie tout le temps avec ma caméra. C'est-à-dire, je suis tout le temps là avec ma caméra, même si je ne filme pas. J'ai assez peu filmé sur toute la période que le film m'a pris. J'ai assez peu filmé, mais j'étais tout le temps dans les lieux. Et là, il s'agissait de m'inspirer, de m'imprégner de la temporalité d'un lieu, d'être avec des gens. Donc voilà.
Il ne faut pas faire croire aux gens autre chose que ce pour quoi on est venu. Donc nous, nos outils, c'est une caméra, du son éventuellement, afin de faire un film. On ne vient pas là pour être amis. Enfin, on peut devenir amis éventuellement après, de manière corrélative, et si les gens sont contents de notre travail. Mais ce n'est pas notre première perspective.
Il y a sans doute, en plus, quelque chose d'inattendu, si on est dans la dialectique, non pas des images, comme dans le montage cher à Eisenstein, mais dans la dialectique du rapport au sujet filmé dans le documentaire. Peut-être que, tout à l'heure, Joris Lachaise parlait de Jean Rouch, on sait que c'est une de ses inspirations, les maîtres fous, pour la démarche de Ce qu'il reste de la folie, son nouveau film. C'est comme une réponse, comme une conversation outre-tombe avec Jean Rouch. Vous, à la manière de Jean Rouch, donc qui est initié par les Aouka, les maîtres fous du Ghana dans les années 50, vous avez été initié, Philippe Lespinasse, par les artistes outsiders, les artistes bruts que vous avez rencontrés pour votre film André et les Martiens.
Oui,
vous avez appris à parler martien déjà.
Il m'initie. Ben, vous avez vu dans le film, dans le film, André Robillard parle martien parce qu'il a fait un voyage sur Mars. Dont acte. Et on s'aperçoit, en l'écoutant, qu'il nous raconte un voyage sur Mars comme il convient de le raconter, de sa position à lui d'artiste, qui s'est aperçu que ça convenait très très bien, un homme qui était allé sur Mars et qui racontait son voyage. Donc finalement, André Robillard fait du zinzin, parce que ça convient très bien. Et ça m'intéresse beaucoup, cette manière qu'ont ces artistes, finalement, de garder la main sur leur histoire. C'est-à-dire de ne pas accepter la situation de relégation ou de marginalité dans laquelle il est commode de les cantonner, mais de dire, mais non, t'inquiète pas, je m'appartiens. Tu veux du zinzin, je t'en fais. Voilà. Mais je ne suis pas zinzin. Tu vas croire que je suis allé sur Mars. Je n'y suis pas allé. J'ai inventé un langage, je te fais le gars qui est allé sur Mars, mais bien sûr que je n'y suis pas allé. Mais sauf que toi, tu vas le croire. Tu vas croire que je suis fou et je ne suis pas si fou que ça. Comme dans ton film, avec le personnage qui décrypte très bien le dispositif de Joris, je suis filmé par un blanc, ça commence bien, donc il a tout à fait conscience du dispositif dans lequel il est. Ça m'intéresse quand même toujours chez ces auteurs, c'est leur capacité à être maître de leur histoire. Voilà, en dehors de tout ce qu'on peut penser et de toute bienveillance.
C'est en réaction à ce qui existe en ce moment dans le cinéma documentaire, ces propositions que vous faites l'un et l'autre, Philippe Lespinasse.
Je suis pas dans cette école. Je m'en fous un peu, à vrai dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les artistes, cette capacité incroyable qu'ils ont à enchanter le monde. Enfin, si Paul Valéry dit que l'art c'est un processus fini qui ouvre des perspectives infinies, moi je crois que l'art brut décuple cette infinitude. C'est-à-dire qu'on est face à des œuvres d'art brut, comme au premier jour, sans aucune référence, on n'a pas de prof d'art plastique qui nous dit voilà, ça c'est beau, ça c'est pas beau. On ne peut pas comparer avec quelque chose qu'on connaît, ça ressemble ni à Chagall, ni à Picasso, ni à Van Gogh, ni à Klee, ni à Jeff Koons, ça ne ressemble à rien. Et ça, c'est ça qui m'intéresse dans l'art brut, c'est-à-dire qu'on est absolument nu comme au premier jour. Et on est au-delà du beau, du laid, c'est notre point G, notre point de non-retour. Voilà. Si l'art c'est le sensible du monde, là on est dans le sensible. Sensible du sensible.
Ping-pong. La culture sans limite.
Le sensible du sensible, ça peut aussi être une contrée qu'on atteint par la musique, brute ou pas, vous le saurez grâce à Zoé Svez et son disque du jour.
Le disque du jour, c'est Far From Home. Alors là, pour le coup, une femme qui est maîtresse de son histoire, c'est la diva du Calypso, Calypso Rose. Elle a 75 ans, elle vient de Trinidad del Tobago, où depuis 50 ans, elle mène une carrière où elle est la reine du bailantino, qui est l'un des derniers genres survivants du Calypso. Et donc, elle jouit d'une consécration internationale depuis quelques mois, grâce à une collaboration improbable avec ce quand même beau dénicheur de talent qu'est Manu Chao. Et elle est donc sur le devant de la scène. Elle vit sa première grande sortie de disque et tournée internationale. Un disque qui est un exemple assez merveilleux de la musique qu'elle pratique, c'est-à-dire profondément féministe. Un disque dans lequel elle raconte ses amours ratés, les épreuves de sa vie, les épreuves de femme, les maladies qu'elle a surmontées, des cicatrices qu'elle transcende pour créer une musique fondamentalement joyeuse, à l'image de ce titre, Calypso Queen.
That my constitution is strong. Instead of respecting me long, long reign, they making plot to take down me name. I've been breaking down walls ever since I was small. They could stand up tall and strong like a wrecking ball.
prostitution is strong. Instead of respecting me long, long reign, they making blood to take down me name. Everywhere I reign supreme, the one and only Calypso Queen. No man alive or dead could man come and take the crown off me head.
Calypso Queen, chantée par la grandiose Calypso Rose, 75 ans encore, performeuse hors pair. Je vous invite à aller la voir, cet extrait donc de son nouvel album Far From Home qu'elle va défendre ce soir. C'est l'invitée surprise du festival, du merveilleux festival Django Reinhardt à Samoa. Et puis elle sera au festival Solidays le 25 juin prochain. Vous retrouvez toute la programmation de Solidays dans les pages du Figaroscope, notre partenaire qui est en kiosque depuis ce matin. Merci Zoé.
Ping pong.
C'est déjà fini.
Et c'est de la folie. Merci beaucoup à tous deux,
à vous.
Joris Lachaise et
merci
Philippe Lespinasse. Et on peut vous retrouver donc vos films documentaires respectifs dans les salles depuis aujourd'hui. Et les artistes que vous avez choisis pour guide, pour maître fou, Joris Lachaise, vous signez donc ce qu'il reste de la folie. Et quant à vous, Philippe Lespinasse, c'est André et les Martiens.
Le ping-pong est une petite maladie radiophonique qui nous a contaminés en équipe et qu'à l'équipe, à la rédaction Aïssa Touendoy, Hélène Delis et Mathilde Cadreau, à la réalisation et la programmation musicale Thomas Beau, à la prise de son ce soir Myriam Guillot et Anthony Thomasson.
Mais quid, Mathilde, des perspectives infinies que la finitude de notre table de ping-pong nous ouvre?
Demain, c'est une table de ping-pong en forme de patinoire, patin rebelle et farce athlétique avec Alexandre Hamel. C'est le chef de file québécois d'un patinage artistique contemporain, débarrassé des costumes au pays des Duchesnais, et Patrice Thibault qui avale à la fois Chaplin, Tati et De Funès pour se moquer du sport sur scène.
Mais tout de suite, à la fois artistique, burlesque et complètement fou, vous avez rendez-vous avec Denis Podalydès de la Comédie Française.